Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Russie privée de Jeux Olympiques d'hiver en février prochain en Corée du Sud. Le CIO a décidé de sanctionner le dopage d'État que Moscou aurait mis en place pour ses athlètes. Une humiliation pour Vladimir Poutine, nous expliquera notre correspondant Claude Bruyot. L'Union européenne publie enfin sa liste de paradis fiscaux. 17 pays épinglés, mais aucun État membre de l'UE. Nous en parlerons avec notre invité Manon Aubry, porte-parole de l'ONG Oxfam. L'audiovisuel public, la honte de la République. Une petite phrase que l'Express prête à Emmanuel Macron. Les députés de la majorité démentent ses propos présidentiels mais confirment la réforme à venir. Nous ferons le point avec Ludovic Piétenu. À la fin de ce journal, hommage à Jean d'Ormesson, disparu la nuit dernière à l'âge de 92 ans. Hommage signé Ilana Mor-Youssef. C'est donc un revers de taille pour Vladimir Poutine. La Russie, en tant que nation, est suspendue des prochains Jeux Olympiques d'hiver en février à Pyeongchang, en Corée du Sud. Décision du CIO, le Comité international olympique, qui accuse Moscou d'avoir organisé un dopage d'État de ses athlètes. Alors, pour faire passer la pilule, le CIO autorise toutefois les sportifs russes dits propres à participer aux JO sous la bannière olympique. Mais ce sera sans doute insuffisant pour calmer la colère du maître du Kremlin. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
C'est une humiliation. Si l'on reprend les précédentes déclarations de Vladimir Poutine, le président russe ne faisait guère de différence entre une exclusion pure et simple et donc la participation de sportifs russes propres sous la seule bannière olympique. C'est une humiliation et aussi un échec pour Vladimir Poutine, voir des sportifs de la Russie concourir en février 2018 aux JO d'hiver, quand on connaît l'importance de cette compétition dans le pays, sans le drapeau de la Russie, à un mois de l'élection présidentielle, et alors que le président russe œuvre à travers le sport notamment pour replacer son pays au tout premier rang sur l'échiquier mondial. Reste à savoir maintenant si Vladimir Poutine autorisera les participations d'athlètes russes à Pyeongchang. Rien n'est moins sûr. Le groupement des télévisions officielles russes, qui avait acquis les droits de retransmission pour ces JO d'hiver, a annoncé ce soir qu'il renonçait à toute diffusion.
Claude de Bruyot, merci. Donald Trump s'exprimera demain sur un sujet hautement sensible, le statut de Jérusalem. Selon plusieurs sources, le président américain pourrait annoncer le déménagement de l'ambassade américaine dans la ville sainte, ambassade qui se trouve aujourd'hui à Tel Aviv. Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Les pays arabes mettent en garde ce soir Donald Trump contre les conséquences d'un tel déménagement. L'Union européenne a publié aujourd'hui sa première liste noire de paradis fiscaux. 17 pays y figurent, des micro-États comme Sainte-Lucie ou la Barbade, mais aussi des pays bien plus importants comme la Corée du Sud ou bien la Tunisie. L'UE, obligée de réagir après les scandales des Panama et des Paradise Papers, les ministres des Finances des 28 se sont bien gardés toutefois d'inscrire sur leur liste un État membre de l'Union. Les négociations ont été serrées jusqu'au bout, l'Axpilota.
Des tractations de dernière minute ont eu lieu. Des pays ont envoyé leurs arguments, y compris la nuit dernière, pour ne surtout pas faire partie de cette liste noire. Finalement, les 28 ministres des Finances ont réussi à se mettre d'accord sur 17 noms. Parmi eux, le Panama, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis ou encore les îles Marshall. Mais ni les États-Unis, ni aucun membre de l'UE n'y figure. Cette liste est-elle complète ? Bruno Le Maire, ministre des Finances.
C'est une bonne liste parce que c'est une liste qui est crédible, parce que avoir le courage de publier une liste transparente, publique, assumer que figurent sur cette liste noire de 17 États, des États qui sont proches de l'Union européenne et qui sont proches de la France, au nom de notre détermination à lutter contre l'évasion fiscale. Ça demande du courage politique. Nous avons eu ce courage politique.
L'UE doit balayer devant sa porte, critique l'eurodéputé vert Eva Joly, qui regrette que la liste noire, je cite, « blanchisse des paradis notoires ». Il existe une deuxième liste, dite grise, avec 47 pays. Ces derniers sont sous surveillance.
Laxmi Lota du bureau de Radio France à Bruxelles. Un invité dans ce journal, Manon Aubry, porte-parole de l'ONG Oxfam, responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité. Bonsoir.
Bonsoir.
Manon Aubry, l'Union européenne qui se dote enfin de sa propre liste avec 17 pays, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ?
Alors, on peut voir le côté face. C'est la première fois que l'Union européenne se dote d'une liste de paradis fiscaux. C'est aussi la première fois dans les efforts de listing de paradis fiscaux qu'il y a pu avoir dans les précédentes années qu'on prend en compte un critère qui est important, qui est plus seulement le critère de transparence, mais un critère de compétition fiscale dommageable. En gros, est-ce que les pays offrent des avantages fiscaux, notamment aux grandes entreprises multinationales? Alors ça, c'était la théorie. Maintenant, si on veut voir les choses côté pile, de l'autre côté, là où le bât blesse, c'est à plusieurs égards. D'abord, voir comment les critères ont pu être appliqués en pratique. On a fait le même exercice parallèle et nous sommes arrivés à une liste de 35 pays qui remplissent les mêmes critères de l'Union européenne et qui auraient dû être listés. Ce soir, nous n'en avons que 17.
Et donc la liste est incomplète.
La liste est largement incomplète et le sentiment que j'ai ce soir, c'est un peu un deux poids deux mesures. Vous l'avez dit dans votre sujet, ce sont essentiellement des petits États, des petits paradis fiscaux qui sont listés, des pays comme Guam, les îles Marshall, Macao, mais aucun paradis fiscal notoire, aucun paradis fiscal qui est au cœur des précédents scandales d'évasion fiscale qui
donc
nous
pour
ont
vous,
tous
cette
choqués.
Liste n'est pas crédible.
Elle n'est pas suffisamment crédible. Il y a une liste parallèle qui est celle, la fameuse liste grise sur laquelle, dans laquelle se trouvent 47 États. A priori, les États qui ne sont pas sur la liste noire sont parvenus à être sur cette liste grise parce qu'ils ont pris des engagements. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de transparence sur les engagements qu'ils ont pris. Et faute d'en connaître la nature exacte, ce sera difficile d'en assurer le suivi et finalement difficile de savoir si les pratiques fiscales offertes par ces paradis fiscaux seront terminées d'ici un ou deux ans.
Le fait qu'il n'y ait aucun État européen dans cette liste, est-ce que ça vous choque?
Alors c'est là aussi l'enjeu supplémentaire, c'est aujourd'hui l'Union européenne met au ban un certain nombre d'États sans forcément regarder ce qui se passe en son sein. Et en fait, à Oxfam, on a fait le même exercice aussi en appliquant ces critères aux 28 États membres. Et le résultat est sans appel, au moins 4 États remplissent les propres critères de l'Union européenne, à savoir l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, et Malte sont surprises. Et c'est là où de nouveau le bât blesse. Il y a une forme d'hypocrisie dans la présentation de cette liste de la part de l'Union européenne, puisque elle nomme à l'extérieur de son sein et de ses frontières des paradis sans regarder ce qui se passe en son sein. Et donc elle devrait commencer par balayer devant sa porte pour mettre un terme aux pratiques fiscales dommageables en son sein, puisque, on l'a vu même avec les Paradise Papers, l'évasion fiscale est organisée, y compris depuis les pays de l'Union européenne, comme par exemple le Luxembourg.
Mais en même temps, on imagine mal les 28 ministres des Finances de l'Union européenne sanctionner l'un de leurs pairs.
Il en effet, et ça pose question sur le mode de décision aussi de cette liste. Cette liste, elle a été adoptée à l'unanimité des 28 États membres. D'ailleurs, bizarrement, on retrouve très peu de territoires britanniques, comme les îles Caïmans, les îles Britanniques, etc. Et c'est pareil, on a du mal à imaginer qu'un pays de l'Union européenne se tire une balle dans le pied et décide soi-même de se lister. Pourtant, il faut aujourd'hui une action forte contre l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne. Et pour être crédible, on aurait pu imaginer qu'en parallèle, l'Union européenne propose une réforme fiscale au sein de l'Union européenne pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables au sein de l'Union européenne. Malheureusement, le débat est maintenu uniquement à l'extérieur des frontières de l'UE.
Justement, sur les sanctions, est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne s'est dotée d'un arsenal pour sanctionner ces fameux pays de la liste noire?
Sur les sanctions, c'est très clair. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le grand flou. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'en fait, on ne sait pas, on ne sait rien, que pour le moment, aucune sanction n'a été annoncée. Quand le représentant du Conseil de l'Union européenne a dû répondre à des questions à ce sujet-là, il a renvoyé cette question à plus tard, dans plusieurs mois, si tant est que l'Union européenne adopte un jour des sanctions. Et donc, c'est un peu comme si, aujourd'hui, on a une liste sans sanctions, sans mesures dissuasives. Est-ce qu'on pense que vraiment mettre un nom sur une liste, c'est ça qui va faire changer les pratiques d'un paradis fiscal? Je pense que c'est un leurre et il sera impératif pour regagner un minimum de crédibilité que l'Union européenne annonce des sanctions fortes et dissuasives.
Manon Aubry de l'ONG Oxfam, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est une petite phrase qui a semé le trouble aujourd'hui à France Télévisions, RFI, France 24 ou bien Radio France. L'audiovisuel public est la honte de la République. Voilà ce qu'aurait dit Emmanuel Macron hier à des députés de sa majorité. Une phrase lapidaire et violente rapportée dans un article du magazine L'Express. Alors face à l'émotion suscitée par de tels propos, les députés marcheurs présents hier à l'Élysée ont opposé un démenti plus ou moins catégorique, Ludovic Piétenu.
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, lance tout en marchant le député de la majorité Pierre-Alain Raffan. Il refuse de raconter, dit-il, le contenu d'une réunion privée à l'Élysée. Contacté, aucun participant n'accepte de répondre. Avant le milieu d'après-midi, c'est Aurore Berger qui sera la première et l'une des seules à se présenter devant la presse pour une opération déminage.
Le président de la République n'a pas dit que l'audiovisuel public était une honte de la République. Il ne l'a pas dit et ça m'étonnerait fort qu'il le pense. Il n'y a pas eu de diatribe.
L'article de l'Express évoque pourtant un procès très sévère du chef de l'État à l'encontre des entreprises du secteur. Pour y voir un peu plus clair, il faut attendre le témoignage d'un autre participant, le chef de file des marcheurs à la Commission des affaires culturelles, Gabriel Attal.
Et moi, j'étais présent à cette réunion. Le président de la République a eu un constat sévère sur l'audiovisuel public. C'était un constat sévère sur la gouvernance de l'audiovisuel public.
Ce constat sévère démenti par l'Élysée, Sophie Mette, députée MoDem de Gironde et donc elle aussi membre de la majorité, en a été témoin.
Il a été un peu sec, voilà. Après, bon, c'est aussi langage assez direct. Hein, donc. Emmanuel Macron n'a pas la langue dans sa poche, donc effectivement, il a dit les choses de manière un peu franche et directe. Les propos de l'Express sont un petit peu exagérés.
Cette députée assure par ailleurs qu'aucun nom de dirigeant d'entreprise d'audiovisuel public n'a été cité et qu'une réforme du secteur aura bien lieu avec des annonces attendues dans le courant du premier trimestre 2018.
Ludovic Piétenu, merci. Jean-Luc Mélenchon, lui, a un problème avec certains journalistes qu'il veut punir. Le leader de la France insoumise demande la création d'un tribunal professionnel des médias pour sanctionner symboliquement, je cite, les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. À l'origine de sa colère, son passage dans l'émission politique de France 2 la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon accuse les journalistes Léa Salamé, François Langlais et Nathalie Saint-Cricq d'avoir organisé un traquenard médiatique. Ils ont abusé de leur autorité pour truquer des chiffres et mentir délibérément. Voilà ce qu'affirme le député de Marseille. On va terminer ce journal par un hommage à Jean d'Ormesson, emporté la nuit dernière par une crise cardiaque à l'âge de 92 ans. Jean d'O, pour reprendre son dernier surnom, était un monument de la vie littéraire française, tant par la plume que par la parole. Il aura écrit une quarantaine de livres, presque tous des succès d'édition, tout en occupant le paysage médiatique de ces 40 dernières années. En 2015, Jean d'Ormesson avait connu la consécration littéraire, son œuvre publiée dans la Pléiade, Ilana Mor-Youssef.
Oui, et de son entrée dans la Pléiade, il disait d'ailleurs que c'était le plus beau jour de sa vie. Il voulait être Chateaubriand ou rien. Il disait volontiers qu'il était sans illusion sur la valeur de ses œuvres comparée à celle des géants de la littérature, mais peut-être le disait-il en espérant être démenti. Toujours est-il qu'il avait conquis dans nos cœurs une place à part. Il pratiquait à merveille l'art désormais perdu de la conversation. Avec lui, les sujets les plus scabreux se paraient d'une élégance folle. Ici, au micro de Vincent Josse sur France Inter, le 16 novembre 2007.
La littérature est un plaisir. La littérature n'est pas à devoir. C'est un plaisir aussi grand que de nager.
Et la conquête d'une femme, même sentiment, même plaisir, même intensité.
Mais c'est la même chose. Je suis persuadé que la littérature, c'est de la sexualité transformée.
Mais on s'en voudrait de ne donner de lui qu'une image lénifiante, c'est la figure obligée des nécrologies. Jean d'Ormesson fut aussi, dans les années 80, un polémiste redoutable. Il était régulièrement invité de l'émission Vendredi soir sur France Inter, avec Arlette Chabot, dans laquelle il s'écharpait avec le directeur de l'Humanité, Roland Leroy.
Je ne vous ai pas interrompu. Alors pourquoi vous m'interrompez?
S'il vous plaît.
Taisez-vous, le roi.
Non.
S'il vous plaît. Taisez-vous.
Il avait aussi l'art de la formule assassine, une façon bien à lui de mettre les rieurs de son côté. Sur le plateau d'Apostrophe, chez Bernard Pivot, il évoque la critique peu charitable qu'il avait faite d'un livre de son prédécesseur au Figaro.
L'article se terminait, il y a tout de même une justice, on ne peut pas en même temps être directeur du Figaro et avoir du talent.
Comble de l'élégance, Jean d'Ormesson a soigné sa sortie. En février, paraîtra un livre de lui titré « Et moi, je vis toujours, c'est ça, être immortel ».
Ilana Amor-Youssef, merci, et retrouvez sur franceculture.fr l'entretien que Jean d'Ormesson avait accordé à Sébastien Le Foll pour l'émission À Voix Nue, c'était en 2014. On termine ce journal avec le temps. Demain, sec et calme en général, beaucoup de brouillard le matin, parfois givrant dans le sud-ouest. En journée, le ciel restera gris et bas sur la moitié nord. Au sud, le soleil finira par s'imposer. Les températures maximales, 3 à 6 degrés dans l'est, 6 à 14 sur les autres régions. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.